Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Dans la survie des civilisations après IL-177 AV, JC », l'historien et archéologue Eric H. Klein examine les 4 siècles qui suivent l'effondrement des grands royaumes de l'âge du bronze en Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Cet essai d'histoire ancienne prolonge 1177 avant JC consacré aux causes de la crise en déplaçant la question que deviennent les sociétés lorsque les palais, les réseaux commerciaux et les équilibres politiques qui les structuraient se sont brisés. De la fin du XIIe siècle au début du VIIIe siècle AV, JC. Klein suit les trajectoires différenciées de l'Égypte, de Chypre, du Levant, de la Mésopotamie et du monde égéen. Il étudie Égyptiens, Phéniciens, Philistins, Israélites, Néoïtites, Assyriens, Babyloniens et Grecs archaïques, en confrontant données archéologiques, textes et débats savants. Son objectif n'est pas de décrire un simple âge sombre, mais d'expliquer comment crise, réorganisation et innovation ont produit un nouvel ordre régional. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, après l'effondrement, étudier la recomposition, plutôt que la seule disparition, le point de départ du livre est le vaste effondrement qui affecte, autour de 1200 AV. JC, les puissances interconnectées de la Méditerranée orientale. Klein ne traite toutefois pas cet événement comme une fin définitive de l'histoire régionale. Il analyse au contraire ce qui survient lorsque des administrations palatiales disparaissent. Que les routes d'échange se contractent et que les autorités politiques perdent leur capacité de coordination. Cette perspective modifie le sens même du terme « effondrement ». Celui-ci désigne une rupture profonde des structures antérieures, non une extinction uniforme des populations, des pratiques ou des cultures. Des communautés demeurent sur place, d'autres migrent, certaines institutions se réduisent et de nouvelles formes politiques émergent. L'intérêt de la démarche est comparatif. Les sociétés ne connaissent ni la même intensité de choc, ni la même temporalité de récupération. Elles n'ont pas non plus les mêmes ressources matérielles, géographiques et sociales. Klein met ainsi en garde contre une vision homogène d'un prétendu premier âge sombre. La période est marquée par des pertes considérables, mais aussi par des réallocations de populations, de savoir-faire et de pouvoir. L'histoire postérieure à 1177 AV, JC devient donc une enquête sur les capacités concrètes de réorganisation dans un environnement durablement instable. Deuxièmement, des crises en cascade dans un monde déjà fortement interconnecté, Klein inscrit les difficultés de la période dans une combinaison de pressions plutôt que dans une cause unique. Sécheresse et famine, séismes, conflits, épidémies, révoltes, déplacements de populations et ruptures ou affaiblissement des échanges peuvent se renforcer mutuellement. Cette logique de causalité croisée est essentielle, une pénurie alimentaire peut accroître les tensions sociales, fragiliser l'autorité politique, provoquer des migrations et rendre les conflits plus probables. L'insécurité à son tour gêne la production et la circulation des biens. L'exemple égyptien illustre la gravité des contraintes environnementales, notamment la baisse durable du débit du Nil évoquée pour cette phase. Mais le livre évite d'expliquer le destin de toute la région par le climat seul. Les conséquences d'un choc dépendent aussi de l'organisation politique, des réserves disponibles, de l'accès aux réseaux d'approvisionnement et de la possibilité d'ajuster les institutions, en mettant l'accent sur les interdépendances. Klein montre le paradoxe d'un système international, les échanges favorisent prospérité et circulation des ressources en temps normal. Mais ils peuvent également propager les perturbations quand plusieurs maillons cessent de fonctionner. Cette analyse donne au livre une portée méthodologique. Comprendre une crise suppose d'observer les interactions entre facteurs écologiques, économiques, militaires et sociaux. Troisièmement, des trajectoires contrastées entre disparition, continuité et transformation, l'ouvrage refuse d'opposer simplement des vainqueurs à des vaincus. Certaines sociétés ou configurations politiques disparaissent, comme les royaumes mycéniens sous leur forme palatiale, tandis que d'autres maintiennent une continuité importante malgré un recul de puissance. L'Égypte survit par exemple, mais ne conserve pas la position internationale dominante qu'elle occupait à la fin de l'âge du bronze. Les Assyriens et les Babyloniens parviennent également à franchir la transition
en
situation étatique qui seront réaffirmées plus tard. A l'inverse, les Phéniciens et les Chypriotes apparaissent comme des acteurs particulièrement aptes à tirer parti du nouvel environnement. Ils développent ou renforcent des rôles commerciaux et maritimes dans un espace dont les anciens centres ont été affaiblis. Klein examine aussi l'affirmation de nouvelles entités, notamment les Philistins, les Israélites et les Néoïtites. Le résultat n'est pas la restauration de l'ancien système, mais l'installation progressive d'un ordre plus fragmenté et différent. Cette diversité de destins rend la comparaison particulièrement féconde. La résilience ne signifie pas l'immobilité ni la préservation intégrale d'un passé prestigieux. Elle correspond à la faculté de modifier les échelles du pouvoir, les modes de production, les relations extérieures ou les formes d'identité collective pour fonctionner dans des conditions nouvelles. Quatrièmement, le fer est l'alphabet des innovations diffusées dans un contexte de rupture. Kleene accorde une place importante à deux transformations associées au début de l'âge du fer, la diffusion de la métallurgie du fer et l'essor de l'écriture alphabétique. Il ne les présente pas comme des inventions miraculeuses surgissant d'un vide laissé par les anciennes civilisations. Leur développement s'inscrit dans des circulations techniques et culturelles de longue durée, accélérées ou reconfigurées par la disparition des grands appareils palatiaux. Le fer finit par prendre une place croissante dans l'outillage et l'armement, même si sa diffusion ne doit pas être comprise comme instantanée ni uniforme. L'alphabet, lié aux traditions levantines et phéniciennes, offre quant à lui un système d'écriture différent des écritures administratives complexes employées dans plusieurs états de l'âge du bronze. Sa transmission et ses adaptations futures, notamment dans le monde grec, auront des effets durables. L'enjeu analytique est moins de célébrer le progrès technique que de montrer comment l'innovation peut trouver un terrain favorable lorsque les hiérarchies anciennes sont déstabilisées. Des sociétés plus petites, des réseaux marchands et des communautés mobiles peuvent devenir des vecteurs essentiels de diffusion. Le livre rappelle ainsi que les périodes de crise détruisent des capacités, mais peuvent aussi ouvrir des espaces à des pratiques qui étaient auparavant marginales, limitées géographiquement ou subordonnées à des institutions disparues. En dernier lieu, une histoire ancienne mobilisée avec prudence pour penser les vulnérabilités actuelles. La conclusion comparative de Kleene établit un écho explicite entre les sociétés de l'âge du bronze et les interrogations contemporaines sur le changement climatique, les pandémies, les migrations, les conflits et la dépendance aux réseaux mondiaux. Cet écho n'équivaut pas à une assimilation directe, les États, les technologies. Les institutions et l'échelle des interdépendances actuelles diffèrent radicalement de ceux du 2000 AV, JC. La valeur de l'analogie est plutôt de faire réfléchir aux mécanismes généraux de vulnérabilité. Une société peut être prospère et sophistiquée tout en restant exposée à des chocs simultanés. Elle peut aussi transformer ses structures sans retrouver son ancien niveau de puissance. La leçon principale qui se dégage du livre tient à l'adaptation. Les groupes qui persistent ne sont pas nécessairement les plus vastes, les plus riches ou les plus puissants avant la crise. Ils sont ceux qui peuvent ajuster leurs organisations et saisir de nouvelles possibilités. Cette idée doit cependant être lue sans simplisme. La résilience n'est pas une qualité abstraite attribuable à un peuple. Elle dépend de conditions matérielles, de choix politiques, de réseaux sociaux et de circonstances géographiques. En reliant archéologie, histoire régionale et réflexion sur les crises systémiques, Kleene transforme l'étude de l'après-catastrophe en instrument de discernement, plutôt qu'en prophétie sur notre avenir. En conclusion, la survie des civilisations s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire ancienne, d'archéologie et d'histoire méditerranéenne qui souhaitent comprendre ce qui se passe après une rupture majeure et non seulement les causes spectaculaires de celle-ci. Il sera également utile à ceux qui s'intéressent au débat sur l'effondrement des sociétés, aux liens entre environnement et organisation politique, ou aux effets ambivalents de l'interdépendance économique. La lecture apporte une compréhension plus précise de la transition entre âge du bronze et âge du fer. Elle évite de réduire cette période à une obscurité uniforme et fait apparaître un espace en recomposition où coexistèrent recul, continuité, innovation et émergence de nouveaux acteurs. Son bénéfice intellectuel principal est d'apprendre à distinguer la survie d'une population. La continuité d'un État et la restauration d'une puissance et réalité ne se confondent pas. Par rapport à de nombreux ouvrages sur les catastrophes historiques, le livre se distingue par son déplacement du regard, là où les récits d'effondrement s'arrêtent souvent à la destruction des palais et des empires. Kleene suit les conséquences sur plusieurs siècles et à l'échelle de nombreuses sociétés liées entre elles. Cette ampleur comparative, soutenue par une synthèse accessible des connaissances archéologiques et historiques, en fait un complément substantiel à son précédent livre. Il ne fournit pas de recettes contemporaines de résilience. Il offre mieux une étude nuancée des conditions dans lesquelles des sociétés anciennes ont échoué, perduré ou changé de forme. Si vous souhaitez soutenir Eric H., Kleene, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.